Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver en ce lundi matin. Nous sommes le lundi 29 octobre. Ça commence bien si je commence déjà à bafouiller. On est ensemble pendant 2 heures, 1 heure d'info à 11h pour commenter l'actualité. Puis entre 10h et 11h, eh bien nous parlons médias. Nous allons évidemment rendre hommage à Philippe Gildas. 0826 300 300. Quel souvenir gardez-vous de Philippe Gildas? Appelez-nous, on attend vos témoignages. On sera avec Yves Bigot, directeur général de France 5, qu'il a bien connu.
TV5 Bigot. Monde.
TV5 Monde. Oui, pardon, moi, ça ne va pas du tout. Il a dû sursauter en entendant ça, Yves Bigot.
Il est passé à France 2, à France 4.
Il est passé par France 2, France 4, RTL. Il a fait plein de choses, Yves Bigot. Il a bien connu Philippe Gildas. On aura également Bonaldi avec nous. Jérôme Bonaldi, Ariane Massenet.
Michel Royer, voilà, pour un documentaire qui va
être diffusé ce soir sur Canal+. Bonjour Gilles, vous avez pris la parole.
Bonjour.
Donc, vous êtes là. Oui. Rémi Pernelet est là également.
Bonjour,
avec ses
Valérie.
Audiences toutes chaudes, toutes fraîches du matin. Et puis on va revenir sur un sujet qui a été diffusé hier soir dans Capital, qui vous a beaucoup fait réagir sur les sites qui vous permettent de noter les restaurants. Les restaurateurs sont parfois en colère, comme Xavier de Namur.
Ça vous arrive, vous, de mettre des avis?
Non, pas trop.
Non, c'est
pas trop mon truc. Non, non, pas du tout. Puis je vais que dans des bons restaurants. Donc,
voilà. Vous pouvez dire que c'est bien. Hein.
Vous pouvez dire que c'est bien.
Absolument, c'est vrai. Oui, je préfère aller. Allez, 0826 300 300. Qu'avez-vous regardé ce week-end? On attend également vos réactions. On commence avec les audiences de Rémi.
Sud Radio, le 10h midi. Les médias. Découvrons les audiences.
Alors, les audiences, Rémi, qu'est-ce qui a cartonné?
Mais écoutez, ce qui a cartonné déjà, c'est les enfants de la télé spéciale. Hier, un hommage à Philippe Gildas sur France 2. 2 212 000 téléspectateurs et 11,1% de part de marché juste avant le JT. Hier, c'est 900 000 téléspectateurs de plus que les audiences habituelles des enfants de la télé les semaines précédentes.
Donc, c'est une vraie curiosité. Et il y a eu un effet sur le journal. Là, je vous piège peut-être un petit peu, vous me le direz après. Est-ce que quand c'est plus fort?
Pas complètement. Non, non. Le journal qui a cartonné, c'est celui de TF1. D'ailleurs, je signale que même si c'est une bonne audience pour les enfants de la télé, c'est toujours 7 à 8 sur TF1 qui reste largement en tête. 4 33 000 téléspectateurs hier, 22% de part de marché, et 6 570 000 téléspectateurs pour le JT TF1 contre 4 8 quelque chose comme ça pour Laurent Delahousse.
Le Gadin.
Le Gadin, c'est pour France 2 hier soir seulement. 1 631 000 téléspectateurs pour Le Monde ne suffit pas. C'est un James Bond de 1999 avec Pierce Brosnan.
Sophie Marceau.
C'était les mauvais, c'était la mauvaise passe.
Exactement.
De James
c'est
Bond,
par exemple, à titre de comparaison, 2 400 000 téléspectateurs de moins que Skyfall, qui avait été diffusé dimanche dernier avec Daniel Craig. Et c'est seulement 400 000 de plus que Arte, vous voyez, qui a fait un très bon score hier avec le film.
C'est pas grave.
Non, je vais
Alors moi, je vous conseille, si vous avez Netflix, de regarder Bodyguard. C'est complètement addictif.
Top, hein,
c'est addictif,
ah oui,
c'est une série, mais vraiment, moi j'ai tout regardé. Donc si vous avez la chance d'avoir Netflix,
voilà pourquoi j'arrivais pas à vous joindre.
C'est une série formidable, non?
Parce que c'était The Town sur Arte. The Town, c'est un film policier de et avec Ben Affleck.
Très bien. Et puis la surprise.
Alors, je voulais peut-être vous signaler aussi un faible score. Ouais, c'est un gadin bis, j'allais dire, de l'émission de Stéphane Bern, Bon baiser d'Europe. 536 000 téléspectateurs, c'est 100 000 de moins que la première, qui était déjà pas un bon score. L'émission d'avant fait 842 000, celle d'après 716 000. Donc, ça se présente pas très très bien.
Mais c'est juste un scandale, cette émission. C'est
oui, pour cette déclinaison, j'allais dire presque éhontée de...
De Union Libre de Christine Bravo, exactement. Effectivement. C'est, on peut se demander où passe notre argent. C'est
absolument
l'argent du service public. On fait une émission où il y a des sujets qui visiblement sont tournés à l'iPhone. Enfin, c'est pas terrible.
La surprise, j'y viens, c'est le faible score de Danse avec les Stars samedi sur TF1, seulement 3 903 000 téléspectateurs pour le divertissement de TF1 animé par Camille Combal. C'est presque à égalité avec le téléfilm de France 3.
Ah oui.
Et c'est 100 000 de moins que la semaine dernière, 600 000 de moins qu'il y a 2 semaines. Alors, c'est sans doute les conséquences d'une météo d'été pour la première semaine de vacances scolaires, parce que franchement, toute la télé fait de très faibles scores sur ce samedi.
Et Pamela Anderson n'est pas sortie.
Et ben voilà, exactement.
Ben
voilà. Contrairement à ce que certains laissaient entendre, eh bien, elle est même arrivée en tête avant les votes.
10,
oui, elle était
10
en,
sur 10, elle a eu même
des cheveux noirs, des 10. Elle va donc être en 6e semaine, alors que ce que prétendaient certains, c'est qu'elle avait signé pour 4 émissions.
Ouais, mais je crois que TF1 n'avait pas le choix, justement. Allez, on passe au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors, on commence avec quoi, Gilles ?
Eh ben, avec Balance ton poste sur C8 le vendredi, qui n'hésite pas à aller dans la provocation et des thèmes vieux comme Le Monde pour faire de l'audience. Après la religion, l'argent, eh bien, Cyril Hanouna recevait un collectif féministe contre le porno amateur. Et évidemment, résultat, ça a clashé sur le plateau.
Le porno, c'est la traite des femmes. Le porno, c'est de la prostitution filmée. Le porno, c'est des milliards de branlettes devant des milliers de mortes. J'aimerais bien qu'on soulève aussi, voilà, les panneaux pour voir le visage de ces femmes qui sont mortes dans le porno et dans le porno pro. Voilà. Leurs vidéos sont encore en ligne et des millions de mecs se branlent sur ces femmes encore. Voilà. J'aimerais juste que ça soit au clair pour tout le monde sur ce plateau.
Parce que ça, c'est donc, je le dis pour les téléspectateurs, ce sont des jeunes femmes qui ont laissé leur vie.
Donc on peut le constater, l'ordre moral était de retour sur le plateau. Religion sexy, j'ai hâte à être un vendredi prochain pour savoir de
pourquoi
quoi on va parler.
Pourquoi l'ordre moral ?
Oh, parce que c'est très très moraliste comme émission.
Ça fait 400 000 téléspectateurs, ça n'a pas bien marché. Et en fait, il fait une sorte de tour d'horizon de tous les sujets
de la semaine.
Et franchement, c'est on en reparlera sans doute.
Ouais. Vendredi.
Une déclinaison de l'actu comme ça, je trouve
ça... C'est un vrai sponsor.
Ouais.
Allez, autre son, Gilles. Autre son qui a retenu votre attention.
Alors là, on passe à quelque chose de beaucoup plus classe. Dans C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine recevait Martine Chancel, la femme de Jacques Chancel, et qui révélait pourquoi il n'existe presque aucune image de son fameux Radioscopie et sa célèbre émission sur France Inter.
Vous pouvez tout dire sur Radioscopie avec Jacques Chancel.
Absolument tout. Absolument. Alors on lui avait proposé, François Reichenbach lui avait proposé de filmer. Il n'a pas voulu.
Il a refusé.
Robert Laffont lui avait proposé... Parce que justement, pour ne pas perdre ce côté intimiste, la radio, ça a quand même une magie. Il n'y a pas d'image. Donc, de toute façon, déjà, vous êtes plus libre.
Parfois, on regrette qu'il n'y ait pas d'image. Là, quand on entend ces conversations, on a envie de revoir les visages.
Bien sûr.
Oui. C'était émouvant à réentendre. Ils ont passé pas mal d'extraits de Radioscopie parce qu'il y a un livre.
Il y a un livre qui sort, effectivement, qui est publié. On aura peut-être Martine Chancel
dans
quelques jours avec nous. Pardon, hein ?
C'est vrai qu'on n'est plus libre en radio,
mais hélas, il y a des caméras maintenant. Donc, c'est plus vraiment de la radio. Donc, dictature de l'image.
On va retourner à Danse avec les stars. Vous savez qu'Iris Mittenard performe dans Danse avec les stars. Elle est en couple avec son danseur Anthony Colette. Ça y est, un nouveau couple s'est formé. Alors vous allez voir que ça n'a pas l'air comme ça, mais depuis sa création...
Ouais, c'est quand même pas confirmé.
Oui, c'est pas confirmé, c'est la presse qui
peut. Si, ça a été confirmé, en tout cas dans...
Confirmé où ?
Officiellement.
Officiellement, et puis Camille Combal a fait plein d'allusions durant l'émission.
Vous n'avez
pas regardé.
Oui, mais...
Vous n'avez pas regardé, samedi.
C'est pas officiel.
Oui, enfin... Petit rappel dans l'émission de Touche pas à mon poste People sur C8 avec Mathieu Delormeau, et vous allez voir que des couples, il y en a eu beaucoup dans l'émission.
Donc il y a eu Alizé et Grégoire Lyonnais, toujours ensemble. Ryan Bensetti, Denitsa Ekonomova, toujours ensemble. Camille Lacour et sa danseuse Abidja Fami, toujours ensemble.
Non.
Une info ?
Non, ils ne sont plus ensemble depuis deux
ans. Non.
Si.
Ils sont plus... Les amis notés, ils sont plus, c'est vrai ? Vous avez cette info-là ?
Je vous confirme.
Donc il est libre, Camille Lacour ?
Oh non, mais Daniel ! C'est pas possible !
Non mais...
Pas qu'à Fritz, Daniel. Calmez-vous, Daniel. Non, ils sont plus ensemble.
Non, ils se sont séparés il y a deux mois.
Il y a deux mois. Yes. Je note plus ensemble.
Faut se dépêcher parce que c'est...
Non, on ne le savait pas.
Faut se dépêcher parce que Camille Lacour, il ne va pas rester sur le marché longtemps. Hein, donc, les filles...
Ouais. À la différence de Daniel Moreau qui est depuis longtemps sur le marché.
J'ai compris votre source, Gilles, c'est TPMP People.
Oui. Ah non, ne m'attaquez pas là-dessus. Alors, on pourra en reparler. Vous savez que c'est un vrai phénomène. En Angleterre, qui est le lieu de naissance de l'émission, il y a eu plus de 25 couples qui se sont formés entre
les danseurs et les candidats.
Et le candidat, c'est une vraie émission de dating et de rencontres qui ne donne pas son nom.
Effectivement, la presse People laisse entendre que Iris Mittenard serait avec son danseur. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826-300-300. On va parler de la disparition de Philippe Gildas. Appelez-nous pour nous dire ce que vous retenez de Philippe Gildas. Quels sont vos souvenirs, si c'est la radio, si c'est Canal+. À tout de suite, on est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On est ensemble entre 10h et 11h pour parler médias. Évidemment, nous allons rendre Hommage à Philippe Gildas. Philippe Gildas qui nous a quittés ce week-end. Il avait 82 ans, journaliste, animateur. Il était passé par l'ORTF, Europe 1, RTL, France Inter et puis évidemment Canal+, nulle part ailleurs. Vous vous en souvenez tous. De très nombreux hommages lui ont été rendus par la profession, par des anonymes également. Et pour évoquer sa mémoire, pour parler de lui, Yves Bigot est avec nous. Bonjour. Vous
Bonjour,
êtes directeur
Valérie.
Général de TV5 Monde depuis 2013. Vous êtes journaliste, vous êtes un enfant du rock. Et alors, j'ai même découvert en préparant l'émission que vous aviez été suppléant de Marc Toesca
pour le top 50. 50.
Oui, créé par Philippe Gildas. Hein.
Oui, Philippe Gildas et Pierre Lescure. Hein, ouais. C'est une des bonnes blagues qu'ils m'ont faites de me mettre au top 50 la première fois. D'ailleurs, c'était assez amusant parce que je partais pour Europe 1 et Libération au festival de Montreux, donc en Suisse, ouais. Prestigieux festival de jazz. Et je leur dis, mais je ne vais pas pouvoir le faire puisque je suis à Montreux. Et là, ils me regardent tous les deux en se marrant, en disant, mais si, tu vas l'enregistrer là-bas.
Ah oui.
Donc, il m'est arrivé, par exemple, de lancer le clip de Ouragan par Stéphanie de Monaco. Avec Miles Davis qui répétait sur la scène du festival derrière moi. C'était ma petite vengeance. C'était pas une vengeance, mais c'était voilà, ma petite auto-justification de m'être fait un peu coincé par mes deux patrons et camarades.
Ouais. Vous l'avez connu quand, Philippe Gildas, vous ? À quel
Philippe, quand il est arrivé à Europe 1, où j'étais... il présentait la matinale et puis il est devenu patron. En 1981, en fait, quand l'équipe précédente a été débarquée, c'est Philippe qui est devenu le patron. Et c'était un super bon patron parce que c'était quelqu'un qui vous aimait bien, qui vous encourageait, qui croyait en vous, qui vous poussait à faire des choses que vous ne faisiez pas.
Il était bienveillant, c'est un mot qui revient dans les hommages qu'on a pu entendre. C'était quelqu'un de plutôt bienveillant, même s'il avait des coups de gueule.
Oui, bien sûr. Est-ce qu'il m'a gueulé dessus, moi ? Oh, ça a dû arriver une fois ou deux. Hein. Mais il était jovial aussi, en plus d'être bienveillant, Philippe. Ce n'est pas quelqu'un qui cherchait le conflit. C'était quelqu'un qui avait... Il avait cette espèce de côté, vous savez, c'était un peu le... Ouais, c'était le père que vous n'aviez pas eu. Enfin, moi, en raison de la différence de génération. Mais il avait ce côté comme ça, un peu... paternaliste, avec tout le monde d'ailleurs, je pense qu'il s'est comporté comme ça, avec Antoine Decaune, José Garcia, les Nuls, etc. Tous ceux avec qui il a travaillé par la suite à Canal. Moi, il m'a donné une émission de rock tout de suite quand il est arrivé le soir à Europe en me disant « Fais ce que tu veux, le principal c'est que ça doit ressembler à rien d'autre et qu'on parle de toi ». Et puis après, il m'a mis sur le multiplex de foot aussi, juste parce qu'il m'avait entendu un jour où j'étais à Cologne, à un concert de Laurie Anderson. J'étais allé l'après-midi, parce que j'aime beaucoup le foot, au Rheinstadion, voir Cologne-Hambourg. J'avais appelé Eugène Saccomano en lui disant « Hambourg vient d'être champion d'Allemagne il y a un quart d'heure en faisant match nul à Cologne. Est-ce que tu veux que je te fasse un papier pour le journal des sports ?» J'ai fait 1 minute 30. Gildas a entendu ça. Il m'a dit « C'est toi qui pars en Espagne, tu me fais 3 heures d'émission tous les soirs pendant toute la Coupe du Monde, donc pendant un mois et demi, un mois de compétition et 15 jours avec l'équipe de France avant, et c'est toi qui présente le multiplex à partir du mois d'août sur 1 minute 30 de chronique. Mais je veux dire, il était comme ça, Philippe, c'était un vrai patron.
Et puis le fait qu'il n'y ait pas de casse pour lui, on l'a entendu également dans les hommages qui lui ont été rendus, c'est-à-dire qu'il était à la fois journaliste, animateur, et qu'il avait cette faculté de pouvoir être à la fois un journaliste extrêmement rigoureux, mais d'avoir cette bonhomie et ce côté pop. J'ai entendu quelqu'un qui le qualifiait de journaliste pop. C'était sa particularité.
C'est vrai, et c'est pour ça qu'il était fait pour moi comme patron. Parce que moi, je n'ai jamais établi de différence entre l'info et la pop culture, ou ce qu'on appelle le divertissement ici. Mais tout le temps, et c'est quelque chose que je pense tous ceux qui ont travaillé avec lui ont gardé, tout en étant journaliste d'abord.
Ouais,
donc c'était d'abord la rigueur, le recoupement, l'investigation, le reportage, et après... On pouvait parler de tout, mais à cette aune-là.
Alors Valérie, je vous propose de retourner dans les années 70. On va écouter un petit jingle d'une autre station et Philippe Gildas qui parle de sa matinale qu'il faisait avec Maryse.
Europe 1er janvier 76, ça c'est une date que j'oublie pas, Moujotte m'a dit, écoute, c'est toi qui l'as voulu, cette émission. Si tu peux nous démontrer que c'était la bonne solution, ben tu y vas. Cette émission de 6h à 9h, c'était bien sûr un journal évolutif toutes les demi-heures, adapté à la clientèle de cette heure-là, par exemple, à 6h du matin, aux gens qui prenaient le travail dans les 3-8 ou bien à Boulogne-Billancourt chez Renault. Et en revanche, on faisait à 8h un journal des cadres.
Le jingle, c'est
savoir ouais, des choses.
Oui, ça, bah ça, moi, j'y ai passé 17 ans. Hein, donc,
ouais, donc le carillon, vous le connaissez. Allez, on se retrouve dans un instant. 0826 300 300, on est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 11h pour parler médias. On rend hommage à Philippe Gildas ce matin avec Yves Bigot qui est avec nous ce matin. Faut qu'il l'a bien connu, Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde. On a Arthur en ligne qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Arthur.
Bonjour à tous.
Alors quel souvenir vous gardez, vous, de Philippe Gildas ?
Déjà, moi, j'ai moins de 30 ans, donc je l'ai connu plus par ailleurs, on va dire. Et son rire. Le rire qu'il avait, le rire communicatif qu'il avait lorsqu'il avait les crises de fou rire avec Antoine Decaune et José Garcia en face. J'ai regardé hier les DVD de Decaune et Garcia et son rire, mais il est génial, quoi. C'est un rire communicatif qui venait du cœur, on le sentait à chaque fois. Et aussi la manière qu'il avait de tenir les émissions, très sérieuse au départ, et puis après il laissait faire sa bande et ça c'était génial aussi, quoi.
Ouais. Donc vous êtes triste, évidemment, de cette disparition, et c'est l'occasion, de, justement, comme vous l'avez fait, de re-regarder les émissions.
On perd un peu l'esprit canal, on a déjà perdu De Greff en début d'année, et là on perd comment ça s'appelle, Gildas aujourd'hui, voilà quoi. Donc là, on va dire que Canal, le vieux Canal est définitivement parti, je crois.
Merci Arthur d'être intervenu, on a Jérôme Bonaldi avec nous en ligne, bonjour Jérôme.
Bonjour à tous.
Bonjour, merci bonjour. D'être avec nous au téléphone. Vous avez fait partie évidemment de cette grande équipe de Canal+. Vous avez été aux côtés de Philippe Gildas. On entendait notre auditeur Arthur évoquer son rire. Qu'est-ce que vous retenez de Philippe Gildas ?
Rigueur et générosité, je m'explique. C'était l'un des premiers à avoir inventé ce qu'on appelle aujourd'hui infotainment. Le mot n'existait pas à l'époque. Il était à la fois journaliste et animateur. Journaliste avec la rigueur qu'il y a et animateur avec la gentillesse, l'empathie, la générosité qu'il faut avoir quand on est des invités. Il y a une phrase importante. Philippe était heureux du succès des autres. Ouais. Et ça, c'était communicatif. Le bonheur ne vaut que s'il est partagé par tous et la réussite d'une émission ne vaut que s'il est partagé par toute l'équipe. Voilà, c'est la grande leçon, je trouve.
Ouais. Vous le voyez encore ? Vous aviez encore des contacts avec lui ?
Oui, parce qu'on avait, après les années Canal, travaillé sur une chaîne pour les seniors. Il était toujours inventif. Il s'appelle Vivolta. Et puis il y avait la Corse aussi.
Que vous aviez en commun et donc vous l'aviez, vous continuez. C'était quelqu'un qui était généreux, vous le dites, à l'antenne. Et il y avait cette générosité qu'il avait où il rigolait à vos conneries. Il n'y a pas d'autre mot. Il y prenait vraiment du plaisir.
Oui, parce qu'il avait compris quelque chose également, c'est qu'il faut avoir un petit peu d'autodérision, c'est important. Il savait se moquer lui-même, et il savait être... autre leçon, il faut prendre les choses à cœur, mais pas obligatoirement au sérieux. Oui. Et donc, ce qu'il disait, c'est que tout est info. C'est quoi l'actualité ? Il me posait, l'actualité, c'est ça, cette nouvelle perceuse, ou ce truc nouveau qui vient de sortir, qui s'appelle Internet. Voilà. Et donc, on parlait de toutes les actualités, et comme il s'intéressait aux gens, parce qu'il était lui-même quelqu'un de parfaitement normal, il était intéressé partout. Il avait une curiosité à 360 degrés.
Oui. Alors, Gilles Gansman a retrouvé un son.
Oui, vous vous souvenez d'un cadeau d'anniversaire un peu spécial que vous lui avez fait ?
Ouais, je suis un peu Alzheimer à mon âge.
Alors écoutez
l'extrait.
Demain c'est votre anniversaire et je voulais vous faire un cadeau.
J'attends quand même pas l'anniversaire pour faire ce que vous pensez quand même.
Non mais vous ferez beaucoup mieux. Voilà, je voulais vous offrir ça, il vient directement du Japon. C'est quand même un bel objet. Regardez, c'est branché, vous pouvez le mettre directement
Charlie,
maintenant.
Je reviens.
Allez, vous venez, regardez ce beau truc. Une fois que vous aurez fait ce que vous avez à faire, vous appuyez sur le petit bouton ici, et logiquement, la petite buse va commencer à sortir, pouf, et il y a de l'eau qui sort. Vous réglerez...
Ah oui, j'ai intérêt, t'as assez de feu, là.
Voilà, vous réglez le jet ici.
Mais non, attends, je ne vois pas sur l'appareil.
Alors, est-ce qu'il est vraiment reparti avec les toilettes japonaises ? Racontez-nous.
Ça a été un grand succès. Oui. Mais c'est vrai qu'on avait un coup avec Toto, qui était le fabricant mondial des toilettes japonaises, oui. Et qu'on avait on a tenu 3 ou 4 jours avec ça. Hein. Mais attendez, encore une fois, alors c'est pas fondamental comme info, mais c'est aussi de l'info. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'on parlerait pas des perceuses, des voitures et des toilettes dans les émissions de télé, s'il y a quelque chose de nouveau.
Ouais. Voilà. Merci beaucoup Jérôme Bonaldi, merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio, Rémi.
Oui, moi je trouve que Philippe Gildas, en fait, il symbolise pour nous Nulle Part Ailleurs. Nulle Part Ailleurs, c'est quand même une émission qui a été majeur dans l'évolution de la télévision, d'après moi. C'est-à-dire que c'est la création de l'infotainment, on l'a dit plusieurs fois. C'est une sorte de mélange entre un ton transgressif, un mélange des générations aussi, la bienveillance, l'humour, avec des choses que on a du mal à voir aujourd'hui sur le plateau. Je pense notamment avec les interventions d'Antoine Decaune, qui parfois, avec des artistes de cinéma, par exemple, sous couvert de ces personnages drôle et décalé, faisait passer par exemple des critiques en disant votre film c'est nul. On n'imagine pas ça. Et Philippe Gildas était la personne, le l'anchorman, qui devait assumer les délires de ses chroniqueurs.
Le clown blanc.
On pouvait imaginer que les invités n'étaient pas toujours ravis de certaines des expressions. Donc je trouve qu'on a inventé quelque chose qui a apporté beaucoup de choses à la télévision. Parfois a été copié, parfois même un peu dévoyé, mais ça, c'est mon point de vue.
C'était une autre époque. Il y a un très joli tweet ce matin de Gilles Jacob, donc, qui était le président du Festival de Cannes, et qui dit Philippe Gildas, il était simple, il était calme, il était droit de ceux dont on dit le moule est cassé.
C'est pas faux. Hein.
C'est pas faux, hein.
C'est vrai.
Mais alors, c'est l'époque ou c'est lui qui était dans son époque et qui a su sentir avec l'escure et cet esprit canal l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, il aurait fait la même chose?
L'époque a changé.
Oui, l'époque a changé, très clairement.
Il n'y avait pas de politiquement correct à l'époque. Et puis, ce qu'il faut dire, surtout, c'est qu'il s'était entouré dans Nulle Part Ailleurs d'une équipe incroyablement talentueuse et créative. Et puis après, vous savez comment c'est. À partir du moment où on donne la liberté de créer et de... s'exprimer.
Oui, de s'exprimer et cette liberté qu'il avait, qu'il laissait aux gens qui étaient autour de lui et qui étaient dans un registre très différent du sien. Je vois les nuls, quand on entend Chantal Lobby ou Farouja aujourd'hui raconter ce qu'il vivait avec lui, c'est vrai que c'était un grand talent.
Mais c'est-à-dire chacun se multiplie. C'est-à-dire qu'il y a une émulation entre les équipes et tout le monde essaie de faire le lendemain meilleur parce que Decaune et Garcia, t'as vu ce qu'ils ont fait hier, nous... on va faire mieux. Et vous aviez, quand vous regardez aujourd'hui l'équipe qui est passée par Nulle Part Ailleurs, c'est un vivier de talents absolument invraisemblable.
Il y a des écrivains qui écrivaient les textes à l'époque, Laurent Chalumeau, Edgar Allgood, c'est des écrivains, des auteurs de théâtre. C'est
bien sûr, et des gens qui sont aussi devenus des patrons à la télévision, hein, Bruno Gaston, Stéphane Gâteau, etc. Hein. C'est-à-dire, c'était... Annie Lemoine,
on leur laissait une liberté qu'on n'a plus. Avec Gildas, c'est aussi une certaine télévision qui s'en va. C'est une
époque la liberté, de liberté. Et c'était pousser les gens aussi à être créatifs et à ne pas leur mettre de limites. Parce que vous savez, le problème, c'est que dès qu'on commence à vous mettre des limites, les bonnes idées, vous les bloquez dès le départ. Alors que si vous laissez tout le monde créer naturellement, de temps en temps, ça déborde un peu sur les côtés ou ça transgresse peut-être un peu trop. Mais toutes les bonnes idées, elles ne viennent que si vous avez la liberté de les énoncer.
Donc c'était aussi une question d'époque. C'est-à-dire qu'il a pu avoir... Il a pu trouver sa place dans cette époque-là qui était beaucoup plus libre. C'est vrai qu'on pense aussi aux deux Chavannes, Bravo et autres. Enfin, il y avait une liberté dans cette télévision des années 90 qui n'y a plus aujourd'hui.
Bien sûr, Valérie, c'est très vrai. Et en même temps, il y avait Canal, qui était un peu une espèce de principauté.
Ouais, absolument.
C'est-à-dire, c'était le Monaco de la télévision, d'une certaine façon. Oui. C'est-à-dire, les règles n'étaient pas les mêmes que les autres. Et puis, parce que lui-même, Philippe, avait Pierre Lescure aussi un patron qui l'encourageait à faire ça et qui partageait la même vision que lui. Ils se connaissaient depuis 1965. Hein.
Ouais.
C'était Gildas qui avait engagé le jeune Pierre Lescure à Radio Luxembourg.
Radio Luxembourg, parce qu'il
n'était même pas encore RTL.
Oui, là, on a parlé de la télévision, mais il y a eu la radio, grand patron d'Europe 1, et à la fois de l'info et des sports. C'était encore cet éclectisme qu'on évoquait au début de l'émission.
Oui, Gildas, c'est aussi un pionnier de la radio, hein, Radio Luxembourg. Il a participé à la transformation en RTL, puis après on l'entendait en parler, Europe 1, ouais. Et il était à Europe dans la fameuse équipe de 1981, l'année où Europe numéro 1 a vraiment été numéro 1.
Alors on est en ligne avec nous Michel Royer, bonjour Michel.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur du documentaire qui va être diffusé sur Canal+ ce soir, Un homme formidable. Racontez-nous votre Philippe Gildas à vous.
Ah bah Philippe Gildas, curieusement, enfin paradoxalement, Canal+ m'a demandé de travailler sur un portrait hommage au moment où il commençait à nous quitter, si je puis dire. Donc j'étais à la fois triste et puis après, en consultant les archives, évidemment, je me suis bien amusé. C'est-à-dire oui. que ce qui est génial avec Philippe, c'est que je crois que c'est lui qui incarne... Ce que je me suis rendu compte en faisant ce documentaire, c'est que c'est lui qui incarne le plus ce qu'on appelle l'esprit canal. C'est un mélange de professionnalisme et de déconnade, de sérieux, d'autodérision, une ouverture d'esprit incroyable, capable de recevoir aussi bien Michel Sardou que David Bowie ou Django Edwards, avec le même ton intéressé, bienveillant. Enfin voilà, il était... Le film s'appelle Un homme formidable, et je crois que Un monsieur formidable, je crois que c'est vraiment vrai. Il était vraiment formidable.
Vous avez retrouvé des images, des séquences étonnantes qui vous ont surpris, vous qui êtes un grand spécialiste des archives.
Merci pour le compliment. Le truc, c'est surtout non. C'était la première fois que je regardais Nulle part ailleurs en me focalisant sur lui. Ouais. Ordinairement, j'ai regardé pour voir les deux cônes, les Garcia, les chiens, enfin, etc. Et tout d'un coup, lui, qui était le maître de cérémonie un peu discret, qui en fait tenait la maison, tout d'un coup, mon regard se porte sur lui et je deviens vraiment admiratif. Ouais. De qui il est, c'est-à-dire il est d'humeur égale, il est extrêmement professionnel. Vous autres, chacun dans vos métiers, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est lui qui tient le conducteur, il lâche jamais l'affaire. On m'a raconté qu'il regardait tout avant l'émission, y compris la météo, sauf les sketchs de Coné Garcia. Il n'avait pas le droit de les regarder de manière à ménager la surprise. Et là, il est formidable parce que... Et d'autre part, ça a dû être souligné par certains de vos invités, mais un degré d'autodérision invraisemblable. Ouais. Dans toute l'histoire de la télé, aucun animateur ne s'en prend autant que lui sur sa taille, sur sa vie sexuelle...
Sur ses cheveux, ses oreilles, son QI,
enfin tout y passe et lui, il rit. Ouais. Il sait que c'est très bon pour l'émission, c'est-à-dire qu'il a cette faculté, cette humilité et ce professionnalisme en même temps, de savoir que c'est très bien. Si on se moque de lui, on pourra se moquer de tout le monde. Ouais. Il sait ça, il a ça dans son ADN, quoi. Il sait très bien que si on se moque des puissants ou des invités ou de personnalités connues, il faut commencer par soi-même.
Il était au courant de votre documentaire? Il l'a vu ou
non, hélas non, c'est son entourage qui m'a demandé de faire ça pour lui rendre un hommage entièrement positif, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire une bio officielle avec toute sa vie, mais plutôt un hommage sur l'homme de télévision qu'il était et ses qualités. Et malheureusement, non, il ne l'a pas vu.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, on va voir votre documentaire ce soir.
À 17h45, Valérie, en clair, donc sera diffusé.
Et à 22h45, encrypté.
Et le commentaire et l'histoire est raconté par Antoine de Caunes.
Merci beaucoup, Michel Royer. Oui, Antoine de Caunes, qui est considéré comme son fils spirituel. C'est lui qui a appelé l'AFP pour annoncer sa mort. Ils étaient très, très liés, tous les deux.
Ils étaient très, très liés et ils sont très liés dans l'imaginaire du public.
Oui, hein, absolument.
Nulle part ailleurs, c'est vraiment Gildas de Caunes.
Mmh. On a même Gildas qui s'est déguisé en de Caunes, personnage.
Didier Lambrouille.
Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est, ça montre son sens de l'autodérision.
Mmh. Et puis il y avait du Guignol aussi, où il le formait à lancer la saucisse.
Mais c'est amusant ce que disait Michel Royer. Il dit, on n'a pas cherché à faire de l'investigation autour de Philippe, etc. Mais franchement, moi, je m'interrogeais, je me disais, mais qu'est-ce que j'aurais de négatif
à dire
sur Philippe ? Et franchement, je ne trouve pas, parce que même ses caractéristiques, nous faisait rire et nous amusait beaucoup. Il était capable, j'y pensais hier soir pendant OM-PSG, Philippe, vous le croisiez dans les couloirs, enfin moi ça m'arrivait, puisqu'il m'avait fait faire le multiplex et le foot, s'il était capable de m'expliquer pourquoi l'OM allait gagner, pourquoi le PSG allait gagner, pourquoi ça allait faire match nul, et le lendemain matin il me disait,
je te l'avais dit.
Avec une mauvaise foi incroyable.
Ouais, bien sûr, mais c'est vrai, bonne humeur.
C'était un homme absolument charmant, moi j'ai eu la chance, il a produit pas une des meilleures émissions de Christine Bravo, qui était chérie, j'ai un truc à te dire, il était avec Ellipse, le producteur de cette émission, mais c'était un type absolument charmant, vraiment sympathique, jovial, intéressant, toujours de bons conseils, et c'est vrai que je ne vois pas non plus ce que je dirais...
Et qui nous protégeait beaucoup. Ouais. Moi, tout le temps que j'ai passé à Europe avec Philippe comme patron, mais on pouvait faire... ce qu'on voulait, exactement comme ce qu'il a fait à Nulle Part Ailleurs. Par la suite, il nous protégeait de tout. Moi, je me souviens d'un jour où j'avais cassé une voiture de repas.
Bravo.
Et donc, j'arrive, je vois Philippe, alors je commence à essayer de lui dire « Oui, tu sais, c'est pas de ma faute, etc. » Il dit « Je sais, c'est un trottoir qui venait de la gauche. »
Ah, c'est joli.
On a Ariane Massenet en ligne avec nous. Et Ariane, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous avez, vous aussi, bonjour. Bien connu Philippe Gildas. Vous êtes arrivé à Canal+ en 91. Pendant 5 ans, vous avez été l'assistante d'Antoine Decaune sur Nulle Part Ailleurs. Mm-hmm. Vous avez donc côtoyé de façon quotidienne Philippe Gildas.
Absolument, absolument. Et je faisais le tampon quand Antoine prévoyait de faire des trucs épouvantables, style avec Django Edwards, pour essayer de dire à Philippe, mais non, il n'y aura pas de miel cette fois-ci, non, il n'y aura pas de mousse à raser, il n'y aura pas tout ça, c'est évidemment faux.
Et vous aussi, au quotidien, vous confirmez, c'était un homme charmant, bienveillant.
Mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile de trouver un défaut à part, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la mauvaise foi. Mais je pense que la mauvaise foi, c'est une qualité dans le milieu de la télé. En tout cas, c'est extrêmement répandu. Mais non, c'est vrai que c'est un homme extrêmement bienveillant, très drôle. L'autodérision, il était champion du monde de ça. Moi, c'est la seule personne que je connaisse qui imitait son guignol. C'était censé le parodier. Et il arrivait dans le bureau et il tirait sur sa veste en disant « formidable !» Il avait vraiment ce don-là. Moi, je l'ai connu à l'époque de Nulle Part Ailleurs, et je pense que Nulle Part Ailleurs était aussi sa récréation. C'est-à-dire que toute sa carrière énorme et fantastique que vous avez évoquée, elle était un peu derrière lui. Donc, il venait vraiment pour s'amuser. La journée, il était à Ellipse, sa société de production, et le soir, il venait s'amuser et rigoler à Nulle Part Ailleurs. Donc, sincèrement, effectivement, des défauts, c'est compliqué effectivement en trouver. C'était un type normal. Et en télé, ça aussi, c'est assez exceptionnel. C'était un type normal, quoi. C'était pas une star de la télé, alors que c'en était une réellement.
Jolie définition et joli compliment, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de gens normaux à la télé. Vous confirmez, Yves Bigot. Merci à Ariane Massenet d'être intervenue ce matin sur Sud Radio. C'est un type normal.
C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était aussi bon.
Bah oui.
C'est parce qu'il connaissait la réalité de la vie quotidienne de ceux qui l'écoutaient à la radio ou de ceux qui le regardaient à Nulle Part Ailleurs.
Il y a un tweet de Bruno Gaston qui a été le programmateur aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup d'hommages assez... Enfin, pas convenu, ému évidemment, et il a dit, j'ai retrouvé cette petite note qu'on avait punaisée sur le mur du bureau, c'était « À quelle heure souhaiteriez-vous voir le film Hamlet, entre parenthèses, durer 4 heures ?» Et Philippe avait écrit « M'en fous, m'en irai quand je voudrais ». Et ça le résumait un petit peu, c'est-à-dire bon, à la fois...
C'est-à-dire il disait en fait ce que, non seulement ce que lui pensait, mais ce que pensent les gens. Mais juste, on le disait, alors qu'aujourd'hui, on est obligé de garder ça pour soi.
Voilà. Bah écoutez, en tout cas, on a parlé de lui avec le sourire, et je pense que c'est ce qu'il aurait voulu, parce que c'était quelqu'un qui aimait se marrer, quoi. Il était un bon client aussi.
C'était quelqu'un qui aimait beaucoup la vie.
Ouais.
Ouais, et qui aimait l'actu, et qui aimait les médias, et qui aimait l'info.
Il continuait à être sur Europe, hein, les grandes voix jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Il avait envie de continuer à être
et
là.
Et qui aimait les autres, et qui aimait faire briller les autres. Et ça, vous savez, c'est assez rare. C'est d'ailleurs ça, la seule vraie qualité des présentateurs de talk show.
On pense à lui et on pense évidemment à Maryse Gildas, qui a été sa compagne pendant plus de 36 ans.
Et il était jaloux comme un pou.
Ah oui.
Ah oui, oui, ça c'était le truc. Ah oui. Alors,
ah ben voilà, on cherchait un truc un peu.
C'est pas un défaut, parce qu'en même temps, il était très très amoureux, ouais, hein, mais c'est vrai qu'il était extrêmement jaloux.
Merci beaucoup Yves Bigot d'être passé par Sud Radio ce matin. On se retrouve, nous, dans un instant pour parler des sites de réservation et d'avis de consommateurs. C'est la suite.
Des restaurants.
C'est la suite du Capital d'hier soir. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On est en direct jusqu'à midi, 11h midi. Nous commenterons l'actualité et 10h, 11h, eh bien, les médias. Et retour sur cette émission de Capital qui a été diffusée hier soir, qui était consacrée aux restaurateurs, à la restauration, aux nouveaux modes de consommation. C'était passionnant, ça a plutôt bien marché d'ailleurs.
Oui, ça a très bien marché, Valérie. Hier, 2 442 000 téléspectateurs, 11,1% de part de marché. C'est 600 000 téléspectateurs de plus, par exemple, que le Zone Interdite qui était diffusé la semaine précédente, et c'est à égalité avec le précédent Capital sur les radars. En fait, depuis la rentrée, et d'ailleurs la nouvelle formule avec Julien Courbet, qui fait des interviews, on va en reparler pendant le cours de son émission, le magazine de M6 a gagné pas mal de téléspectateurs. On est passé à 2,4 millions, c'est un score régulier
Quand les émissions sont incarnées par des gens crédibles comme l'est Julien Courbet, c'est sûr que c'est bien. Xavier de Namur, bonjour, vous êtes restaurateur. Vous étiez hier sur le plateau de Julien Courbet pour réagir à un sujet, et c'est sur ce sujet qu'on avait envie de vous entendre, et vous aussi, auditeur de Sud Radio. Est-ce que vous notez les restaurants? Est-ce que vous allez sur les sites de type TripAdvisor pour donner votre avis sur les restaurants? Ce reportage était assez saisissant. Vous, Xavier de Namur, vous êtes en guerre contre ces sites, en particulier TripAdvisor, de notation. Le reportage était assez incroyable, d'ailleurs, quand on voit comment aujourd'hui les restaurateurs ont à leur disposition d'ailleurs un certain nombre d'indications pour pister les consommateurs qui donnent leur avis. Pourquoi vous êtes en guerre avec ces plateformes?
Alors tout d'abord, bonjour, merci de m'avoir invité, Valérie, et bonjour aux auditeurs. Alors moi, je suis en guerre, enfin c'est en façon de parler, je les ai assignés au tribunal, enfin j'ai porté plainte contre TripAdvisor.
Ah oui, c'est pour, une bonne guerre.
D'ailleurs, j'attends Bruno Le Maire, le ministre, doit me répondre sur cette question. Il m'a écrit. Donc je les ai attaqués, non pas pour les faux avis, on voit dans le sujet beaucoup la question des faux avis. Alors effectivement...
D'un concurrent qui va, de gens payés pour réagir.
On a effectivement un grand flux d'avis. Même la Direction Générale des Fraudes dit qu'il y a à peu près 30% de faux avis, etc. Mais ce qui me gêne, moi, alors si on parle juste de la question des avis, ce qui me gêne, c'est le temps, on voit dans le sujet, le temps que Vincent Durin, d'ailleurs un des restaurateurs qui avait gueulé contre ses avis, le temps qu'il passe ou que ces restaurateurs passent à répondre. C'est-à-dire qu'à répondre, à s'en occuper, c'est qu'on fait le jeu, en réalité, de ces plateformes qui n'existent que parce qu'on s'en occupe. C'est-à-dire que encore une fois, tout le temps que vous consacrez à regarder ou à payer des gens pour répondre pour vous, parce qu'il y a des sociétés qui font ça, pendant ce temps-là, vous ne consacrez pas à faire à manger. Et ce coût de la communication, c'est que le coût que les consommateurs n'auront pas dans leur assiette, finalement.
Il faut être honnête, il y a aussi des faux avis positifs. On sait qu'il y a des établissements, des restaurants, des hôtels, plein d'établissements
qui demandent à leurs copains.
Soit même ont des sociétés qui mettent des faux avis positifs.
Alors, ça, c'est vrai. Alors, après, TripAdvisor, justement, dit qu'il contrôle un peu ça, qu'il regarde et tout. C'est effectivement. Alors, mais encore une fois, pour moi, cette question-là est vraiment, je dirais, parallèle ou superfétatoire. Je dirais même par rapport à la vraie question. La vraie question, c'est que les consommateurs, qui eux, les clients, qui mettent leurs avis, ne se rendent pas compte souvent déjà. Donc, il y a ce côté un peu mouchard, ce que je disais hier, un peu, qui raconte sur et qui gêne plutôt les salariés plutôt que vraiment, des fois, l'entreprise. Parce que quand vous avez quelqu'un qui dit « Ah ben mon serveur, il était vraiment pas sympa, etc. Et » tout. Donc finalement, on raconte des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt, ce qui aurait été intéressant.
Ça a l'intérêt, parce que souvent,
c'est complètement subjectif. Parce que d'un avis, on voit d'ailleurs dans le sujet, pour le même restaurant, il trouve que la pizza est super bonne et l'autre qu'elle est super mauvaise.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est presque incontournable, ça. C'est-à-dire que quelle que soit l'activité, quand on veut acheter une voiture, quand on veut préparer un voyage à l'étranger, on va regarder des avis sur Internet. Alors, et donc ça, cet élément-là, il est compliqué. C'est compliqué de dire, on va l'arrêter.
Alors, encore une fois, c'est là où je vais arriver à essayer d'exprimer ma pensée. C'est que ces consommateurs qui mettent leurs avis, qui pensent avoir la main mise sur ce que vous dites en tant que consommateur sur les sites, etc., en réalité, c'est un peu les pigeons. Parce que ces sites n'existent et se fait par leurs algorithmes, ne marchent que parce qu'on dépose des avis, on les fait monter. Et quand vous avez des boîtes qui ont un avis négatif, bah, qu'est-ce qui se passe ? Elles demandent à plein d'autres consommateurs de mettre des avis et de couvrir ces avis négatifs par des avis positifs. Et en fait, en réalité, ils prennent juste les données. On voit même dans le sujet hier, ils prennent même les données des gens, les téléphones.
Pour
pister les gens. Donc, c'est à ce moment-là où je dis, c'est là le piège.
Et vous connaissiez ça, vous, ce système-là ?
Alors, ce logiciel ?
Qui est-ce ?
Alors, qui est-ce ? Je ne connaissais pas particulièrement, mais on sait que...
Vous abonnez 900 euros par an et voilà,
c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on vous dit quel est déjà les guides, etc. C'était déjà tendancieux avant, la manière dont ils travaillent. Et là, maintenant, carrément, on peut les repérer, on sait qu'est-ce qu'on fait, qu'on va leur donner bien à manger ou pas. Donc ça, c'est effectivement, pour moi, ça manque d'éthique, c'est pas bon, etc. Mais juste pour revenir sur les sites, ces sites où on dépose des avis, ce qui est grave, c'est que le consommateur, lui, croit qu'il est gagnant. Alors qu'en réalité, tout ça va coûter de l'argent. Va coûter de l'argent, par exemple, au restaurateur. Donc il va... je dirais, faire de la com, donc ça lui coûte de l'argent. Il va payer aussi à travers, et j'en viens à TripAdvisor, il va payer en réalité, quand il va réserver le restaurant qu'il a choisi par TripAdvisor, 2 euros sans le savoir, parce que ça appartient à la fourchette. Et voilà un peu comment on oriente, parce qu'en fait,
derrière ça... Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je trouve que, pour une fois, on a la parole. Alors évidemment, il y a des dérives, comme dans tout système, mais des fois, vous arrivez dans des restaurants, parce que sûrement le vôtre est très bien, et j'irai vérifier, et je mettrai un avis sur TripAdvisor, mais il y a un moment, les restaurateurs à Paris, comme il y a beaucoup de flux du touriste, ou dans les grandes villes, à Marseille ou autre, ils s'en fichent un peu du client, en disant, de toute façon, la clientèle va se renouveler. Et moi, je trouve ça bien qu'à un moment, on ait une jauge. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, cette jauge.
Elle vaut rien, la jauge, c'est ça le problème.
Non,
c'est que...
je suis pas sûr,
mais moi, je regarde sur TripAdvisor, et que vous trouvez un hôtel, je prends l'exemple des hôtels ou d'un restaurant formidable, moi, j'ai pas le même goût que vous. Ce qui est un très bon restaurant pour vous ne sera pas un très bon restaurant pour moi. Donc, en fait, tout ça, c'est bidon. Enfin, moi, je trouve que c'est bidon.
Si vous me permettez, je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, j'ai vu un avis, si je regardais, parce que
moi, je trouve que ça permet au restaurateur de ne pas faire n'importe quoi.
Alors, on peut effectivement, quand il y a des choses très précises et qui nous disent, voilà, il y a une grande longueur entre peut-être l'entrée et le plat, etc., on peut en tenir compte et on peut regarder. Mais quand vous avez un avis qui est négatif parce qu'on vous dit que le voisin a envoyé la fumée de cigarette, ce que j'ai vu avant-hier, dans l'œil de l'autre, on n'y pour rien s'ils sont en terrasse.
Oui, mais je suis assez intelligent pour voir que ce commentaire est débile.
Sauf que ça vous fait un classement, parce que comme on voyait dans le sujet,
on nous parle de
classement. Moi, je vais vous dire, j'ai un restaurant, il y a 2 enseignes, c'est le même restaurant, c'est le même emplacement, c'est la même adresse.
Moi, j'ai été voir sur TripAdvisor.
L'idée, c'est que c'est de montrer qu'il y en a un qui est 1000 et quelques dièmes, et l'autre, il est 4000. Donc, on voit bien que ça... aucune valeur, le classement. Mais je voudrais finir et surtout revenir sur ce qui est important. C'est que ces boîtes où c'était vachement sympa à la base de donner votre avis, etc., en réalité, elles ont mis tous les restaurants dessus. Elles ont pris tous les consommateurs et les clients. Et à partir de là, où vous pensez que c'est gratuit, qu'est-ce qu'elles font ? Elles ont un flux. Ouais. Et ce flux, elles l'utilisent pour monétiser. Et c'est là que TripAdvisor rachète la fourchette et monétise et oriente.
C'est un site de réservation à la base.
Un site de réservation en ligne et oriente les clients vers des restaurants qui sont dit, alors moi c'est tout mon sujet, dans une publicité genre comparative, si vous cliquez sur un avis, vous avez ensuite réservé, moi je ne suis pas affilié à eux, on dit réservé dans des restaurants similaires. Et là on vous oriente dans des restaurants similaires où vous avez l'onglet réservé en ligne. Et là il y a une tromperie, et la tromperie du consommateur et la tromperie du restaurateur. Et là j'attends ce que doit faire la Direction Générale des Fraudes pour empêcher ce genre de choses. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, d'ailleurs, la fourchette vient de s'acoquiner avec Instagram en disant au début, c'est gratuit, alors qu'en réalité, derrière, ils vont monétiser. C'est dans leur parcours même. Sinon, ils ne gagnent pas de pognon.
Mais tout le monde est comme ça, hein, Xavier, tout ce que vous faites.
C'est quand même vrai qu'il y a un danger de manipulation des données personnelles. On le sait, on en a déjà parlé ici à propos de Facebook, à propos de plein de choses. Donc c'est une dérive, c'est sûr.
Mais hier, ce qui était étonnant dans le sujet, c'est ce logiciel pour lequel paient les restaurateurs pour identifier à partir de votre numéro de téléphone quand vous faites une réservation.
Qui vous êtes, si vous êtes un bon de client.
On voit que c'est minime parce qu'ils ont à peu près 20 000 téléphones dans leur base de données. Donc on est quand même 70 millions. C'est quand même peanuts. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que dans le. J'ai perdu le fils de ma pensée.
Mais en gros, vous dites que ces avis n'ont pas vraiment. Il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire de savoir que s'il y a un business derrière ça et qu'il faut se méfier des avis.
Oui, non, en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous avez les restaurateurs qui payent premium, par exemple, sur TripAdvisor, pour monter, pour arriver un peu plus haut. Donc, encore une fois, tout cet argent que. Les professionnels utilisent pour être mieux classés, le temps qu'ils y passent, c'est pas du temps que vous vous retrouvez pour le service et dans l'assiette. Et c'est ça le problème.
Merci beaucoup Xavier de Namur d'être passé par Sud Radio ce matin. Et vous pouvez regarder le replay de Capital. C'était extrêmement bien fait comme reportage. Allez, 30 secondes pour convaincre. Qu'y a-t-il à la télévision ce soir?
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral, donc l'occasion de sensibiliser aux AVC. Et France 2 consacre une émission spéciale cet après-midi avec Faustine Bollard. Ça commence aujourd'hui, c'est à 13h55. Et le sujet, ce sont ces jeunes de moins de 25 ans, sujet assez peu évoqué et pourtant pas aussi banal que cela. Donc on a demandé à Stéphanie Guérin, la productrice, de nous expliquer, de nous convaincre. 30 secondes pour nous convaincre de regarder cet après-midi cette émission spéciale.
On pense souvent en effet que les AVC n'arrivent qu'aux plus seniors d'entre nous. Or, en touchant une personne toutes les 4 minutes en France, ces accidents vasculaires cérébraux arrivent aussi à des personnes plus jeunes et parfois même à des très jeunes. Alors pour la journée mondiale des AVC, on a décidé, ça commence aujourd'hui, de consacrer notre numéro aujourd'hui à des victimes qui ont toutes moins de 25 ans. Alors avec elles, on va s'informer au travers de belles histoires. Vous verrez que nos invités ont réussi à surmonter cette épreuve et qu'ils en sont sortis plus forts. Donc vraiment, soyez avec nous cet après-midi. Parce qu'on peut tous être concernés un jour à 13h55 sur France 2.
Voilà, à ne pas manquer. Donc, et ce soir, le match, c'est Joséphine Ange Gardien ou L'Amour est dans le Pré.
L'Amour est dans le Pré.
Oui, je pense L'Amour est dans le Pré parce que Joséphine, c'est une rediff.
Et le Bureau des légendes sur Canal+.
Bon, je dis Joséphine alors.
Allez, à tout de suite. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Et nous, on se retrouve demain à 10h pour d'autres infos.
Demain avec David Ginola, Valérie.
Ah oui.